C'est bon. Est-ce que tu veux t'écouter pour...
Comme tu veux, moi je te fais confiance, toi tu me dis que c'est bon.
Comme ça, tu vas pouvoir jauger par rapport à
En tout
ta...
cas, c'est du matériel pro, hein, dis donc. Tu fais pas semblant. Ouais, je trouve que c'est pas mal.
Cool.
J'aime bien. Ça me plaît, faut bien que je parle là, quoi, comme ça on entend suffisamment bien. Bon, alors déjà, quand j'étais petite, on mangeait souvent les chocolats et j'ai une grande collection des boîtes avec le chat.
Ah ouais?
Ouais, une énorme collection. Je sais pas combien j'ai de boîtes, enfin combien on a de boîtes dans la famille, on en a beaucoup.
D'accord.
C'est une volonté sans doute de concurrencer le chocolat suisse à ce moment-là.
Donc, en fait, ça, c'est le livre d'or du podcast Passion, dans lequel j'écris les bios de chaque personne. Tu peux regarder.
J'ai le droit d'ouvrir?
Ouais. En
Excellent.
fait, là, tu as une enveloppe à la page qui est la tienne, mais tu peux
Ah.
aussi regarder les autres.
Bon, alors attends. Un peu de narcissisme, je commence par moi. Je suis juste après Lisa Perriot.
Ouais, parce que
J'adore cette femme.
c'est l'avant-dernière personne à avoir fait le podcast avec moi, la dernière n'étant pas artiste. Et donc, du coup, vu que je connaissais pas cette personne, elle est là sans être là.
Je lis à voix haute, du coup.
Oui,
Et
c'est le principe.
je découvre en même
Ouais,
temps.
et pourquoi je fais ça? C'est parce que je ne sais pas trop lire dans un micro. Ça me met mal à l'aise, j'ai peur de bafouiller et tout.
Ok,
Donc, je
bon.
préfère déléguer cette tâche.
Bah écoute, très bien. Puis en plus, je trouve que c'est sympa parce que du coup, on découvre en même temps. Johanna Salaisé casse le mythe de la Suisse qui prend son temps. Mais elle est polyvalente à l'image de ses artistes. Son. Alors attends, j'ai du mal à déchiffrer.
Cumule.
Son cumul,
J'ai
pardon,
aussi.
voilà. Excellent. Son cumul des mandats personnels, donc humour et journaliste, le tout sur plusieurs territoires. Riche de ses origines multiples, elle constitue son empire à vitesse, elle constitue, c'est ça, elle constitue son empire à vitesse grand V, prenant le pouvoir sur les ondes comme sur scène, tout en conservant une part de jardin secret. Waouh. J'adore.
C'est l'effet que
Ah non, mais c'est vrai. Non,
je...
mais moi, j'ai toujours dit, hein, en lisant le spot du rire, que je vous conseille, au-delà d'écouter les podcasts, de lire, hein, chers auditeurs, enfin,
Merci.
chers auditeurs, pardon.
Non,
Oula.
je peux enlever ça.
Excusez-moi. Non, très bien écrit. Juliette Follin est pour moi, est une très, très bonne journaliste qui a une plume comme rare on en lit, je trouve, dans le monde, on va dire, culturel, médiatique.
Et pourquoi? Parce que je n'ai pas de carte de presse.
Voilà, moi j'en ai une, du coup ça explique peut-être cela. Mais en tout
Ah
cas,
merde.
ah, c'est pas grave. Mais j'écris vraiment pas des articles forcément
Non, mais tu fais du stand-up, donc...
de ta volée, quoi. Mais c'est toujours très bien écrit. Et merci beaucoup pour ça, pour ces quelques mots.
Je t'ai invité aujourd'hui dans Passion parce que j'avais envie de te faire parler. Et souvent, je demande, c'est quoi ta passion? Visiblement, il n'y avait pas de réponse particulière. Ça ne veut pas dire que t'as pas de personnalité.
Merci Juliette, ça me fait
Ça t'a
plaisir.
fait plaisir de venir aussi loin pour entendre ça. Non, mais parce que du coup, tu m'as dit, en ce moment, j'essaie de retracer le parcours familial de ma mère et de sa famille, de l'Algérie jusqu'à la France, car il y a de grandes zones d'ombre et j'aimerais lever le voile, quelle bonne blague, je sais pas s'il y avait un haha derrière, sur les événements qui se sont passés en Algérie.
Oui, tout à fait, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant. Que j'avais pas forcément pris le temps on va dire, de creuser plus que ça, parce que c'est un sujet à la fois qui mêle un roman familial et pas que, c'est aussi un roman historique, parce qu'on est quand même clairement dans qu'est-ce qui se passe à partir de la guerre d'Algérie, de l'émancipation d'un peuple, comment est-ce qu'on en vient à quitter son pays pour venir en France, de quel côté on est aussi dans cette guerre d'indépendance. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé que j'ai commencé donc avec ma grand-mère qui elle est décédée il y a 2 ans maintenant. Le problème c'est que ma grand-mère parlait pas français donc c'était assez difficile de réussir à récolter un peu ses souvenirs et il fallait toujours donc il y ait un traducteur avec moi. Et surtout, je crois que ça appartient à des choses qui sont trop douloureuses, qui ont été trop enfouies. Mais je trouvais intéressant parce que moi, en étant née en Suisse, je trouve qu'au niveau de l'identité, j'ai toujours eu un vrai problème à me situer d'un point de vue d'où je viens. Alors, je sais qu'il y en a qui s'en foutent, hein, c'est des questions qui les intéressent pas forcément. Moi, ça m'a souvent interpellée parce que je pense qu'en Suisse, je me sentais pas forcément à ma place.
Ouais, ok.
Voilà. je me sentais pas trop à ma place parce que je parlais pas avec un accent en particulier, parce que je pense qu'à la maison c'était très méditerranéen et parce qu'on avait un permis de séjour aussi et parce que je pense que mes parents parlaient plutôt d'autres pays quoi. Donc voilà, donc on n'était pas, enfin moi en tout cas je me sentais pas forcément hyper intégrée. Alors que je l'étais, enfin tu vois, j'allais à l'école, j'étais voilà. Mais il n'y avait pas d'effet miroir entre la culture suisse et moi, ce que j'avais à la maison. Et j'ai l'impression que c'est en grandissant que les choses sont devenues un peu plus claires, quoi. De toute façon, en grandissant, on gagne une certaine sagesse, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, puis c'est aussi le moment où tu t'éloignes en fait du cocon familial et tu deviens toi-même.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis partie assez tôt. Hein. Je crois que j'avais 17 ans quand je suis partie de chez moi pour faire mes études à Montpellier. Du coup, je me suis rapprochée donc d'une partie de ma famille algérienne. Et je reconnais quand même que à Montpellier, j'ai eu un peu plus cet effet miroir, quoi. Ce côté sud, ce côté très vivant, très dans un débordement souvent un peu. D'émotions qu'il peut y avoir par rapport à la Suisse, j'entends. Hein. C'est-à-dire oui. que pour quelqu'un oui. de français, c'est normal. Pour en Suisse, c'est waouh!
Ouais, ça dépend. Dingue! Ça dépend parce que moi, je viens de Normandie et c'est proche de la Suisse en termes de mentalité.
Ouais.
Donc,
ouais,
dès qu'on va dans le sud, on est perdu.
Ça vous fait.
Mais même
aller
à Paris, c'est juste l'enfer.
Ouais, ok, d'accord.
Mais bon, je pense qu'il y a aussi l'enfer du fait que la ville est un enfer.
Que c'est sans doute peut-être Paris.
Ouais, mais c'est un peu. C'est, en plus, campagne versus 2000. Il y a 2 millions d'habitants.
Ouais, c'est ça, c'est 2 millions intramuros. Et je crois qu'on est dans les 11 millions en Ile-de-France,
ouais,
en totalité. Ouais, ouais. Oui, ça fait bizarre, on est d'accord. On est pas prêts, quoi.
Donc voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi qui ne connais pas mes origines, parce que je suis née sous X, donc en gros, concrètement, pour ceux qui savent pas, ça veut dire que ta mère, elle accouche, mais elle donne aucune information. Donc du coup j'ai pas d'origine ou en tout cas je les connais pas et je suis pas allée les chercher et cette identification bah je l'ai pas eue en plus je me suis retrouvée dans une ferme tu vois
d'accord ça veut dire c'est-à-dire
une ferme d'humains tu t'imagines
non mais
une ferme
non mais en gros ta mère a accouché donc à l'hôpital
ouais.
ou ouais
normalement
okay.
à maternité
et à partir de là t'as été recueillie par en organisme ou...
Bah, la DAS donc du coup je sais pas ce que ça enfin c'est quoi l'acronyme? Parce que la France, les acronymes, on sait, c'est très...
C'est vrai.
Mais en gros, ouais, c'est en pouponnière, en fait. Donc, que avec des bébés abandonnés.
OK.
Jusqu'à ce que ton dossier rentre dans un truc de famille. Et voilà, donc à 6 mois, je me retrouve dans cette famille. Et en fait, ils ne l'ont jamais dit avant que je le découvre par moi-même. Donc,
ah, d'accord. Ouais. Ah oui, donc c'était... toi, tu as... cru que tu étais donc
tout me semblait
enfant biologique
quoi.
Jusqu'à
ouais.
Et comment tu l'as découvert?
C'est une en fait à la campagne tout se sait donc une camarade de classe me l'a dit. J'avais
quoi? Mais sérieusement, c'est une camarade de classe
ouais,
qui elle était au courant et
ouais parce qu'en fait à la campagne ouais tout se sait donc j'aurais pu enfin à 4-5 ans tu comprends pas ce genre de choses mais j'aurais eu peut-être des indices pourquoi les gens me trouvaient un peu chelou et traînaient pas trop avec moi donc du coup même à 4-5 ans, tu vois, la discrimination, c'est fort. Non, mais puis bah du coup, je suis allée voir mes parents et j'ai aucun souvenir de tout ça. Mais apparemment, je leur ai demandé, ils m'ont dit oui. Et
d'accord,
c'est
ok.
Tout, quoi.
Et c'est tout. Et comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça aujourd'hui, justement?
Bah, c'est en fait la question elle est beaucoup trop large pour répondre comment je me sens par rapport à ça, parce qu'il y a trop de choses, quoi.
Est-ce que t'aimerais justement faire ce travail
Non, justement, pas.
Toi, tu voudrais pas, d'accord, ok.
Non, parce qu'en fait, je pense que c'est glauque, l'histoire.
D'accord.
La seule information que j'ai, c'est que ma mère a avorté de sa première grossesse. Et donc, du coup, la deuxième grossesse, c'est moi. Elle n'a pas avorté. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est tout ce que je sais.
D'accord, ok.
Et la ville de naissance aussi.
Qui est, donc
Le Havre.
Le Havre, ok.
Donc déjà, tu sens le trafic de drogue et tout, c'est un truc...
Ah, ça, que Le Havre, il y a une ambiance, quoi.
Il y a une ambiance, en plus, en 91, en 1991, donc du coup, le bloc communiste qui vient de s'effondrer, et c'est resté très communiste, la ville du Havre.
D'accord, ok.
Jusqu'à ce que Édouard Philippe, le mec qui a changé de couleur de barbe, pour ceux qui savent pas, ait pris
la tête
le
de
pouvoir,
la...
Ouais, le ouais. pouvoir, et donc du coup c'est devenu à droite, et maintenant c'est stylé, il paraît, je sais pas, je déteste.
J'avoue, je connais pas le Havre, enfin à part ce qu'on me raconte du Havre,
mais... Ouais, ouais. Je suis allée une fois du coup après ça, et c'était un peu traumatique, tu vois, mais juste parce que la ville moche, quoi.
Ok, ouais, bah, côté zone portuaire...
Mais après, enfin j'en ai vu une après-midi, donc je peux pas juger ouais. une ville sans y avoir vécu trop... Voilà.
Ok, non mais intéressant en tout cas.
Et du coup, ouais non, par contre, le fait de pas avoir été dans un groupe et tout, et d'avoir développé ma personnalité à partir de passions atypiques, ça a été fondateur pour moi, tu vois. Mm. Donc pour moi, en fait, ma famille adoptive, c'est administratif, et on n'est pas proche parce qu'en Normandie, personne dit trop les choses. Et par contre, du coup, j'ai une quête de famille de substitution et le stand-up arrive. Et donc, du coup, je pense que dans toutes mes relations, c'est très bizarre parce que les gens, ils comprennent pas pourquoi je m'attache hyper rapidement. C'est parce qu'en fait, enfin, c'est comme ça que je l'ai un peu imaginé. Il m'a fallu aimer des gens que je ne connaissais pas pour pouvoir manger, être nourri et tout par des parents.
Ah, c'est intéressant ça. Et donc, ouais, du okay. coup. Non, mais ça, je trouve ça intéressant.
Et ouais. du coup, c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on devrait. Imaginez leur relation, tu vois. C'est, salut, non, mais... j'ai faim. Apprécie-moi. Tu
oui, mais je pense que ça se calque sur un instinct de survie. Et je pense que l'instinct de survie d'un nourrisson, j'imagine, est tout aussi important et impactant, car il y a un enjeu de survie qui est immédiat. À mon avis, c'est une explication qui tient la route. Et puis. Et puis bon, après, je pense qu'on se trimballe tous aussi certains traumas, des choses mais plus ou moins compliquées. Donc, je pense que c'est, il y a pas à juger de la tâche et de la façon.
C'est clair. Mais du coup, quand tu disais que tu te sentais pas dans le bon environnement en Suisse au début,
ouais.
Bah, j'ai ressenti ça parce que déjà j'étais déracinée du Havre à la campagne, c'est déjà une petite déracinement. J'ai toujours senti que c'est pas la campagne, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas.
Tu t'es pas senti chez toi quand t'étais
jamais,
en Normandie?
Jamais, non. Surtout dans une ouais. ferme et tout. Moi, j'étais sur un ordi et je jouais à des jeux vidéo.
D'accord, ok.
C'était ça qui me hypait. Et donc, bah, du coup, t'as la PlayStation 1 qui est là avec les vieux jeux qui sont un peu... des vieux jeux de voiture et tout. Et donc, c'était un peu mon monde. Et puis, mes parents, étant agriculteurs, ils avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper de moi. Donc, je suis pas me plaindre non plus, tu vois. J'ai quand même une famille. mais c'est chelou. C'est un peu... Enfin, c'est pas là où on est. Et donc, du coup, le fait d'aller vers les autres cultures, d'avoir fait des études d'anglais, de me passionner pour des pays. Dans les années 2010, c'était la Belgique. Dans les années 2020, c'est la Suisse.
Ça va pas. Oui, c'est vrai que t'avais une petite passion suisse en ce moment.
Et la passion suisse, elle est surtout liée au fait du débit de parole et de la capacité d'écoute de votre peuple.
Alors c'est vrai. Alors autant moi, je reconnais que je me sens pas archi-suisse dans l'âme à 100%. Et je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu là, ouais, mais de toute façon, vous parlez trop lentement, nanana, parce que tout le monde me faisait la remarque que moi j'avais une gouaille assez française, voire presque des fois un peu titi parisienne. Et je pense que je le vivais un peu mal, mais... Mais avec le recul et aujourd'hui, je me rends compte de effectivement de toute la sagesse qu'a en plus la Suisse par rapport à la France, quoi. Dans la façon de non, mais c'est vrai que c'est assez marrant, quoi. Enfin, je sais plus trop qui m'avait raconté ça, mais je crois que c'était mon père quand ils étaient arrivés en Suisse au tout début des années 90. Je crois que dans les parties communes, à savoir ce qu'on appellerait parties communes, ça devait être aussi les jardins. Enfin, en Suisse, il y a les buanderies qui sont partagées. Il y a genre tu fais tes lessives à certaines heures, etc. Et puis tout le monde s'arrange avec des plannings. Et il y a souvent aussi des jardins un petit peu comme tu peux avoir en France, quoi, en mode jardin autour de l'immeuble. Et il y avait un cerisier, et je crois que mon père, quand il est arrivé, il a vu plein de cerises et il s'est dit, mais je comprends pas pourquoi les mecs ne ramassent pas les cerises. Du coup, en une journée, il a ramassé toutes les cerises. Et il y a un gars qui, je pense, était le concierge de l'immeuble, lui a dit, vous avez cueilli toutes les cerises, tu vois. Et mon père, il fait, bah ouais, parce qu'il y a personne qui le fait. Et le mec lui a dit, bah si, c'est juste qu'ici, en fait, on le fait tous ensemble.
Ah.
Et là, mon père s'est senti ultra con. Donc du coup, il a redistribué les cerises. Après cette remarque, il se sentait pas de... Mais je trouve que ça en dit long sur un peu la mentalité du pays, la manière dont les choses fonctionnent. Puis encore, quand je dis pays, c'est quand même très fractionné, hein. C'est un pays multiple, avec plein de cultures, plein de langues. Mais je trouve que ça donne un avant-goût, peut-être par rapport à ce qu'on peut voir en France, quoi. Je pense que c'est malgré tout un peu moins individualiste. Enfin, je trouve que cet exemple-là, en tout cas...
C'est hyper, c'est presque communiste, c'est ça, c'est là où c'est hyper drôle, parce que du coup, ce que l'image de la Suisse par les gens en France, c'est richesse, chacun pour soi, les banques et tout ça. Donc, quand tu sais ça, tu comprends l'incompréhension de tout un peuple par rapport à la Suisse, qui est vraiment un truc méconnu, quoi.
Mais oui, mais parce qu'en plus, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas, enfin, il y a quand même un cliché, effectivement, comme tu dis, terrible sur ce pays. C'est un pays où il y a énormément d'agriculture. C'est un pays où il y a une force rurale qui est importante. Enfin, dans les grandes villes, je sais pas, si je te prends Genève, Zurich, Lausanne, tu fais 10 minutes, tu es en pleine campagne. Donc, il y a un rapport avec la ruralité qui est très fort. Je trouve que c'est un pays qui s'est valorisé. Voilà, on est en pleine révolution avec les agriculteurs, justement. Donc, je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas hyper bien là-bas. Et je pense que les agriculteurs doivent avoir des problèmes qui peuvent s'apparenter à ce qu'il y a en France. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même une valorisation de la terre, au-delà du cliché des banques et des Rolex, qui est bien plus présente que dans d'autres pays, quoi. C'est ouais. Je pense que c'est un peuple étonnant, quoi. C'est un peuple qui... Bon, a su s'adapter par pas mal de pirouettes, évidemment, mais qui n'en demeure pas moins, en fait, très ancré, quoi. Moi, c'est comme ça que je les ressens, les Suisses. Des gens assez ancrés, à la fois dans leur terre, dans leur patrie, et avec un vrai vivre ensemble. Mais parce que le pays, de fait, est un pays où il faut vivre ensemble, quoi. T'as une partie où on parle allemand, l'autre italien, l'autre romanche, qui est une langue qui a un mélange d'italien et de français, l'autre français, enfin, tout ça entouré d'autres pays, enfin... Voilà, t'es obligé à un moment donné de partager les cerises.
Et du coup, pour préparer ce podcast, j'ai lu 3 livres sur avec plein de points de vue sur tout ce qui était guerre d'Algérie, quête de l'indépendance. Je me suis rendu compte, je suis nulle en histoire, hein, vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Et je ne connaissais rien, et j'ai lu, et je ne comprends rien. Vraiment, je suis teubée complète.
C'est une histoire complexe, hein. C'est une histoire complexe. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, il y a pas mal de points de vue. Après, les faits historiques sont des faits historiques, mais moi, je sais par exemple que nous, déjà, on est kabyles. Donc, c'est déjà un peuple à part en Algérie. Ils sont considérés comme étant les premiers habitants en fait de la terre d'Algérie, des Berbères donc du coup, et il y a plusieurs du coup catégories dans les Berbères. Donc là, j'avoue, nous on est juste kabyles, on vient de la région de Tizi Ouzou.
Mm-hmm. Comme Areski Sugar d'ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Bon, je connais pas bien, mais je sais qu'il est kabyle.
Parce que j'ai un portrait de lui petit où c'est genre French Prince of Tizi Ouzou.
Oui, bah ouais, c'est ça. Et moi, c'était un village très rural à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ta Tizi Ouzou qui est donc si mes souvenirs sont bons, c'est en Haute-Kabylie. Et dans un rayon, je pense, de 50 km environ, c'est un village qui s'appelle Boumani. Alors, je pourrais pas le dire correctement là. En gros, si je le dis avec l'accent français, c'est Boumani. Et c'est très rural, quoi. Moi, mes grands-parents vivaient dans des... j'ai pas envie de dire dans des huttes, parce que c'est un peu trop cliché. Mais c'est des maisons faites en pierre, vraiment à l'ancienne. Et en tout cas, l'histoire familiale, pour ma part, c'est que... Mais je pense, comme beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, c'est que mes grands-parents, eux, ne savaient pas lire, pas écrire, pas compter, ni rien. Donc, c'était des paysans qui avaient des ânes, des figues et des oliviers. Sauf que... Dans la famille, il y avait quand même des grands-oncles, des grandes-tantes, etc. Et ces personnes-là, dans les années, du coup, 40, ont intégré l'armée française. Donc, on faisait partie, donc, au même titre qu'il y a pu avoir les tirailleurs sénégalais, on imagine que c'était à peu près la même chose, que ce soit pour 14-18 ou pour 39-45, avec finalement les Algériens. Et un peu, je trouve que le film, enfin, je rebondis sur les Tirailleurs sénégalais avec le film de Omar Sy, parce que ça, c'est un film qui m'a beaucoup touchée et je trouve qu'il raconte extrêmement bien finalement alors cette histoire des tirailleurs sénégalais, mais plus largement comment étaient utilisées les colonies à cette époque-là. Donc c'est-à-dire qu'on était de la chair à canon pour les Français en l'occurrence. Et effectivement, un de mes grands-oncles a été médaillé. Enfin, il est passé en genre de général, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte que c'était aussi une forme de stratégie française pour réussir à avoir une forme de mainmise sur ses troupes. Tu vois, si tu commences à récompenser
une petite corruption, quoi.
Voilà, en algérien qui du coup va plus sentir il va être saucé, donc du coup il aura une ascendance sur le reste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que tout ça a fait que il y a eu un héritage du coup dans l'armée française du côté de mon grand-père, qui fait que quand le FLN, donc le Front de Libération Nationale, qui était donc pour l'indépendance en Algérie, a appris que dans notre famille on avait eu une personne qui avait été gradée à un moment donné pendant la guerre de 39-45, ils se sont dit on va soit les exterminer, soit essayer de voir s'ils peuvent venir dans le camp du FLN, ce qui du coup ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, il cherchait mon grand-père essayait toujours de s'enfuir, etc. Jusqu'à un jour où ils étaient pas là, le FLN est rentré dans la maison et a tué absolument tout le monde. Ils ont égorgé tout le monde. La seule personne qui était présente, c'était un de mes oncles, qui était caché sous un lit, et qui aujourd'hui ne peut pas parler de ça parce que c'est trop compliqué et traumatisant. Mais qui fait que là, mes grands-parents se sont dit « bon, il faut qu'on parte, quoi ». Et
oui, c'est un petit signal, quoi.
Voilà, ils se sont dit, sauf que bon, voilà. Donc, ils ont pris un des bateaux. Alors, ça s'est passé que c'était un soldat français les a pris et les a mis dans le bateau. Et ils sont arrivés à Marseille. Puis après, bon, ça a été un long parcours d'intégration, de... Après, voilà, mes grands-parents n'ont jamais parlé le français, donc je pense que l'intégration a été un peu compliquée. Mais bon, voilà. En gros, voilà, très schématiquement parlant, l'histoire familiale. Et encore, en fait, ça, c'est ce qu'on a bien voulu me raconter. Et en fait, c'est là où ça devient compliqué, c'est que c'est un peu ce qu'on veut te raconter, tu vois. Ce gars qui a été général, donc du coup, c'est pour ça que on a envie de te faire payer ça. La façon dont ils ont quitté le territoire est très floue aussi. Moi, on m'a dit que c'était un général qui s'appelait Julien, qui les a fait passer par les maquis, etc., pour qu'ils rejoignent Alger et puis qu'ils prennent le bateau. En fait, je ne sais pas si c'est vrai, et c'est très compliqué de regrouper toutes les sources, parce qu'en fait, il y a une barrière de la langue, et puis il y a aussi la mémoire. Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, donc c'était la... J'ai plus mon grand-père non plus. Donc du coup, ce sont des générations qui te racontent ce qu'elles ont aussi envie de te raconter. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me lancer un peu dans cette quête de récit familial, de vérification et de regroupement des sources. C'est un vrai travail journalistique qui est long et fastidieux, mais qui moi m'importe, parce qu'il y a aussi cette volonté de savoir d'où on vient et qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette période de guerre et d'indépendance, quoi.
Ok, mais c'est probablement pour ça que t'as eu cette vocation de journalisme.
Ah, je sais pas.
La curiosité et tout. Parce que quand on te cache des choses ou quand tu as des zones d'ombre sur ton passé, on a tous les deux ça, et au final on a été dans la curiosité, dans le fait. Est-ce que c'est de la philosophie de comptoir?
Non, mais peut-être. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt. Enfin, je crois que de toute façon.
Ou alors c'est juste on était nuls en maths.
Alors on est très nuls en maths. Alors ça, c'est sûr, on était très très nuls en maths. Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que j'ai envie peut-être aussi. Je pense que alors ce qui peut être un parallèle intéressant avec le stand-up, de comment moi je le vois, c'est que à titre personnel, aller vers les autres carrément, il y a cette démarche là, mais il y a aussi cette démarche de vouloir se raconter.
Ouais, carrément.
Et ce que je trouve du coup intéressant avec ce projet du coup de rechercher ses origines, etc., et aussi de faire un spectacle de stand-up ou du stand-up de manière générale, c'est qu'on a envie de se raconter aux autres et de raconter des histoires. Et là où ça se regroupe, c'est la nécessité, en tout cas pour moi, de l'authenticité, que ce soit dans la vraie vie et sur scène. Et je trouve très compliqué d'accéder à cette authenticité-là quand il y a des pièces manquantes parfois du puzzle.
Ouais, clairement.
Dans sa vie perso, j'entends.
Bah ouais, parce que même si on veut être honnête, on peut pas tout raconter, donc du coup, ça, l'histoire, elle tient plus la route, quoi.
C'est un petit peu ça. Et puis, il y a aussi ce côté de se dire, les gens souvent nous demandent dans le stand-up, est-ce que c'est vrai? Mm-hmm. Ouais, mais ça, c'est forcément jamais. Bah, moi, par exemple, tout est vrai. Parce qu'il y a un vrai, non, mais parce qu'il y a un vrai besoin d'être sincère et d'être hyper aligné. Mais ça, c'est le même sentiment qu'il y a d'essayer de comprendre une histoire familiale.
Ouais.
C'est un besoin d'authenticité. Et moi, je ressens que les deux sont assez liés pour moi, tu vois. La démarche artistique et la démarche personnelle, elles finissent par se rejoindre à ce niveau-là.
Ce qui est plus pratique, en vrai. Ça mutualise les efforts.
Bah, je sais pas. Mais je crois que ça dépend quelle démarche artistique on a, finalement. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment juste faire des blagues et que ce soit drôle. Et ils ont la capacité, que j'admire, hein, d'ailleurs, de prendre n'importe quel sujet et des sujets, je sais pas, pas forcément très intellectuels et faire plein de blagues dessus. Et moi, c'est vrai que j'arrive pas à faire ça et j'envie les gens qui sont capables de ne pas avoir le risque du soi,
ouais,
dans le stand-up pour faire rire. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir le risque du moi.
Ouais, de fait, de parler de soi, quoi.
Voilà, c'est ça.
OK.
Et du coup, d'être vulnérable. C'est pas facile, mais...
Et oui, parce qu'en plus, dans tous les trucs où en ce moment, c'est vraiment l'ambiance, la santé mentale, préservez-vous, mais en même temps, livrez-vous sur scène, et la relation avec le public est un peu chelou. Enfin, c'est quelque chose... Après, c'est un peu chelou, mais d'un autre côté, les humoristes aiment bien se raconter des histoires en disant « Ouais, mon destin, il est dingue parce que je fais des blagues. » Ça s'en bat les couilles, en fait. C'est pas parce que les gens font pas des blagues qu'ils ont pas une âme derrière ou quoi, tu vois. Donc, des fois, ils se racontent un peu le fait qu'ils sont exceptionnels ou quoi. Donc, on redescend.
Ouais, mais d'un autre côté, il y a c'est vrai, je suis assez d'accord. Il y a un côté à se raconter.
Peut-être que je dis
quoi.
Ça en ce moment, parce que je sature de discours d'humoristes.
Tu n'en peux plus, ce milieu.
Non, mais par contre, certains, tu vois, des fois, je fais, redescends, arrête de te poser en victime égocentrique ou quoi. Mais c'est très personnel, parce que, enfin, c'est très personnel à certaines personnes qui m'énervent en ce moment. Mais alors que d'autres, c'est trop cool, quoi. Je rebondis sur pas du tout ça, mais tout à l'heure, quand tu parlais de passé militaire, on a vu le spectacle de Charles Nouveau il y a 2 jours.
Ouais, tout à fait. On était ensemble à la nouvelle scène.
Il parle de sa lignée masculine, et beaucoup sur les mecs, et du coup de généraux, de je ne sais quoi.
Oui, c'est
je
ça.
Me souviens
de résistants, de...
Ouais. Ouais, et ouais. Lui, il fait du stand-up et tout. Et est-ce que toi aussi, t'as ce truc de... il y a une vraie différence entre ces gens qui ont vraiment risqué leur vie et tout, versus moi qui risque le bide.
Le bide qui peut avoir au moins un traumatisme que de se prendre une bombe dans la gueule. Non, je rigole. Mais ouais, alors c'est vrai que c'est une bonne question à laquelle j'avais pas forcément réfléchi avant. En tout cas, avant de voir effectivement le spectacle de Charles Nouveau. Ouais, bah en fait, je sais pas. On essaye de faire comme on peut. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit des grands héros. Hein. À chaque fois, j'ai souvent... Alors voilà, peut-être que... Alors, je sais pas si je vais réussir à répondre comme ça. En tout cas, d'un point de vue de ma famille, clairement, ce sont des gens qui sont énormément battus. Je pense que si j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir faire des blagues dans un micro, c'est grâce à eux. Parce que c'est un confort. Enfin, voilà, je veux dire, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Après, je trouve que dans le métier en lui-même... je crois que c'est effectivement un métier où faut pas mal redescendre. Où en fait, ce qu'on fait, c'est essayer de faire rire des gens, faire en sorte que les gens oublient leur misère pendant une heure dans l'idée. Il y a des gens qui sont 1000 fois plus drôles que nous, qui ne montent pas sur scène et qui font pas des blagues. Et pourtant, dans la vraie vie, ils sont archi drôles et très forts et très fins. Et voilà. Et c'est pas pour. Mais je crois que des fois, ça fait du bien de ramener un peu d'humilité dans ce milieu qui parfois en manque un peu, quoi. Donc oui, c'est vrai que, pour répondre à ta question du coup, oui, je comprends la réflexion qu'avait Charles Nouveau dans son spectacle. Et oui, je pense que nous, de toute façon, on est une génération, c'est compliqué, tu vois, de pouvoir réussir à ne pas au final avoir un recul sur soi, un peu bon bah moi du coup je fais juste ça. Nos grands-parents ont vécu première, deuxième guerre mondiale, enfin je veux dire quand même les années 1900 jusqu'à 1999, c'était incroyable. Enfin aujourd'hui on vit d'autres choses, mais ce que je veux dire c'est que là pour le coup eux ils ont traversé l'histoire avec un grand H, mais de manière très frontale et très impressionnante, quoi. J'ai pas envie de dire que tout s'est joué au XXe siècle, mais presque. Et donc, du coup, toi, t'arrives au XXIe siècle. Bon, alors, tu vois, en venant, là, j'ai écouté Affaires Sensibles sur les années Maznev. Ouais, je vous conseille Affaires Sensibles de manière générale sur France Inter. Et alors, celui-là m'a particulièrement marqué parce que ça rend... Putain, je suis partie hyper loin, là, dans le truc. Je sais pas si on arrive à suivre le fil rouge, mais dans ma pensée, c'est clair. En gros, j'écoutais ça, ça appartenait à une autre époque, etc. Et je me disais, mais aujourd'hui, notre grande guerre à nous, c'est cette grande guerre de déconstruction, cette grande guerre de vraie égalité. Et cette grande guerre, je pense qu'il est très... Je pense qu'on touche du doigt une nouvelle forme de d'humanisme, entre guillemets, en s'attaquant aux violences faites aux femmes, mais aussi aux minorités, etc., et en essayant de ramener plus d'égalité. Alors peut-être que dans 50 ans, on se dira, bah moi j'ai été acteur de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je repense à Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance de l'Algérie, etc., je me dis, ça va, je crois quand même que j'ai de la chance.
Ouais, ouais, et puis en plus, l'actualité en ce moment où on enregistre, c'est, oh là là, c'est horrible, les Français ne baissent plus.
Oui, alors ouais, c'est tu me l'as appris, ça, je savais pas.
Mais c'est...
Bah, faut y aller, les gars, ça.
On vous en avait parlé dans les précédents.
Ouais, Couleur 3...
Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, les gens connaissent plus Couleur 3 que Maznev sur Passion. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je... Bon, bref, j'écoute pas Affaires Sensibles et tout, donc je suis complètement paumée sur cette ref, mais...
Non, mais...
Mais, ouais, on est dans une époque un peu chelou, mais c'est difficile de la comparer avec des époques qu'on n'a pas vécues.
On sait... Enfin, voilà, c'est peut-être le calme avant la tempête.
Ouais, peut-être que je sais pas si c'est très calme en ce moment.
Non, mais
bah, ça dépend où on
non,
est.
Non, bien sûr, voilà, ça dépend où on est. Je pense que
je retourne en Suisse dans pas longtemps, donc j'ai hâte de retrouver.
Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, en ce moment, on a quand même, il y a des conflits mondiaux qui sont assez balèzes.
Moi,
ouais.
Je restais sur le climat ambiant sur Bumble,
mais qui peut être aussi un champ de mine terrible. Là, hein.
Hier, je raconte ma vie rapidement, mais après, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, dis donc, tu passes beaucoup de temps avec un micro devant ta bouche. Et là, je me suis dit, ok, on est sur cette ambiance.
Bonsoir.
Ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai viré la personne.
Et tu n'as pas forcément rebondi sur.
Non,
sur
ça sert à rien.
Mais tu parles bien dans un micro, donc ça veut dire que.
Oui, mais en fait, j'ai mis des photos. En fait, j'ai pas beaucoup de photos de moi, et donc du coup, j'ai mis des photos où je suis montée sur scène, tu vois. Voilà. Et à chaque fois, on me demande c'est qui ton humoriste préféré. Ou, enfin bref, je galère. Mais je pense que
le monde est dur, hein. C'est notre guerre à nous, hein.
C'est
très blanc, bien né, du bon côté de la Méditerranée.
J'ai pas compris.
Non, mais sous-entendu, tu dis c'est l'enfer, c'est difficile Bumble. Et moi, je rebondis en disant, bah, c'est notre guerre à nous, blanche, bien née du bon côté de la Méditerranée.
Ouais,
aujourd'hui,
okay.
La guerre qu'on a au-delà de MeToo, ça ouais. va être, ça va être réussir à faire le bon match, quoi.
C'est clair. Mais après, moi, tu sais, quand j'entends bien-né et tout, bah, moi, j'ai pas l'impression d'être bien-né.
Ah ouais.
Bah,
alors, du coup, ouais, c'est pour ça. Toi, j'avoue, la formulation que j'ai eue pour toi résonne autrement. Complètement.
Ouais,
ouais. Ouais.
Bah, écoute, en vrai, en termes de financier et tout, ça va. Ce qui me permet de faire bénévolement aussi ce que je fais.
Ouais,
et, tu vois,
ouais, bien
et
sûr.
Pas chercher à un profit ultime et tout, et à essayer d'aller vers ma vocation, ce que j'ai pas beaucoup fait, parce que au début, en fait, j'essayais juste de trouver d'avoir un diplôme, parce que l'éducation était très importante, enfin, les études, trouver un travail, et voilà. Ça me permet de temps en temps de faire beaucoup de voyages en Suisse, en Belgique, et puis même en France, mais bon, j'ai moins envie. C'est pas que j'aime pas mon pays, hein. Mais c'est juste que je cherche des gens qui, parle à un débit qui correspond.
Ah mais merde, parce que moi je parle vite en plus.
Mais toi ça va, parce que
du coup, je suis la plus...
tu es en capacité d'évoluer en Suisse, tu vois. Alors que,
ouais.
Je sais pas si t'as fait, si bien sûr t'as fait des afters de comedy club, où en fait les gens ils se parlent les uns sur les autres et personne s'écoute vraiment.
C'est vrai.
Et c'est terrible pour moi. Move a fait une émission avec des humoristes il y a quelques semaines. Je sais pas si t'as écouté. J'ai écouté et c'est inaudible. Parce que
ah ouais,
tout
d'accord.
le monde parle les uns sur les autres. Enfin, c'est pas tout le temps, mais quand t'es habitué à écouter les bras cassés, où vraiment c'est segmenté et tout, et chacun trouve le moment où bien parler et se parle pas dessus.
Ouais.
Bah là, tu dis, mais quelle régression, quoi. Mais parce qu'ils ont pas l'habitude, et parce qu'en France, ça se...
Se fait comme ça en France. Oui. Moi, c'est vrai que...
Moi, j'arrive pas à me parler, en fait, dans une conversation. Je suis obligée de lever la main en réunion.
Ouais, ouais, ouais. C'est terrible. Je pense que c'est très français, comme tu dis.
C'est terrible.
Effectivement, changeons. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a, ce truc de débat. C'est vrai que la France, il y a ce côté débat d'idées.
Oui, débat d'idées. Merde, et c'est juste pour parler plus fort que l'autre, quoi.
Il y a un côté un peu comme ça, effectivement, qu'il n'y a pas en Suisse. Je sais pas si t'as déjà regardé des émissions. Par exemple, lors de l'élection des conseillers fédéraux ou lors de juste de votation, genre des votations de manière très large, il y a des débats qui sont donc organisés sur la RTS, donc la radio-télévision suisse, et c'est vrai que c'est incroyable cette espèce de tout le monde est contre tout le monde entre guillemets, c'est le principe même des votations, quoi. Il y en a un qui vote pour noir, l'autre il vote pour blanc, etc. Et en plus pour la Suisse, on est à peine dans cet abus de langage-là. Mais c'est vrai que chacun arrive à finir sa phrase, c'est dingue. C'est
oui.
dingue.
Mais oui, il faut comparer les grandes gueules sur RMC, je sais pas si t'as déjà écouté ce truc,
ah, oui,
versus
oui.
les beaux parleurs.
Ah oh oui, non, mais non. Première.
Oh là là, quand j'ai découvert les beaux parleurs, je me souviens, j'avais dit à Benjamin Descoster, qui est un chroniqueur assez récurrent, même s'il le fait moins maintenant parce qu'il est sur Couleur 3 le vendredi, je lui disais, waouh, ils ont l'air tellement intelligents. Non, c'est juste qu'ils sont en train de parler.
C'est juste qu'ils se coupent pas la parole.
Parce qu'il y a quand même des anti-vax, des complotistes.
Ah oui, oui, non, non, mais la Suisse reste quand même, enfin, je veux dire, ça représente la société, donc il y a des...
Oui.
Il y a des petits trous de balles partout et il y a des gens super partout.
Mais je les aime, tu vois, ces gens-là. Alors que quand je regarde Didier Giraud, moi, c'est pas le pire. Hein, parce que du coup, en tant que rural, tu vois, quand je vois le chasseur et tout, qui est au fin fond de son... Tu vois, ça me choque moins qu'un vieux trou du cul de la Défense, là, avec son costume et tout, qui était pourtant mes fantasmes il y a 10 ans. Mais bon, bref, peu importe, ça, c'est le passé. Mais du coup, ouais, il y a... Et puis, c'est tellement la lutte des classes chez nous, j'en peux plus, en vrai.
Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté très clivant gauche-droite, mais j'ai l'impression que la politique française c'est principalement basée là-dessus. Après, c'est là avec la différence avec la Suisse, c'est que nous il y a genre 7 conseillers fédéraux. C'est fédéral.
Il n'y a pas de starification chez vous, quoi. Personne connaît le...
Honnêtement, je ne sais pas qui est le conseiller fédéral, là, le chancelier.
Viola Merde.
Voilà. Le chancelier, c'est qui? Tu
c'est Viola Merde, non?
Aucune idée. Alors, tu m'apprends un truc. Je ne sais pas. C'est vrai que, voilà.
C'était Albert Rushdie, il y a pas longtemps. Et c'est passé à Viola Merde.
D'accord. Bah, excellent. Bah, écoute, j'adore.
Je crois, hein.
Ok. Je te fais confiance.
On verra.
Mais donc voilà, donc c'est te dire à quel point
personne saura de toute façon.
Je ne sais pas qui est cette personne. Je la croise dans la rue, il y a pas de problème, quoi.
Ouais, présidente de la Confédération depuis le 1er janvier.
Excellent, d'accord, c'est récent.
Et je me suis trompée, c'était Alain Berset avant.
Ah, mais voilà, mais oui, Alain Berset.
Et Albert Rushdie, c'était quoi alors?
Alors je sais pas. Déjà, Rushdie, c'est le nom d'un bon plat. Après, le mec en question, je sais pas.
Mais en tout cas, Viola Amherd.
Oui.
C'est tellement drôle. Il y a aussi des sujets légers sur lesquels on voulait parler. On allait parler. Tu m'avais dit, on peut parler des heures de cuisine italienne, de pourquoi le gruyère suisse est meilleur que le comté, et ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que tu connais le fromage?
Waouh! Non, pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Le fromage, c'est Blaise Persinger qui, pendant les footaises, donc les émissions où les humoristes commentaient les matchs de foot de l'Euro suisse, où on a, oula, j'ai dit on pour
mais
la
Suisse.
Mais
c'est la vérité, écoutez, vous avez le droit, vous avez le droit.
Ouais, non, mais là, j'ai dit on, genre, pour la Suisse.
Oui, parce
qu'on a battu la France.
Oui, c'est ça. Moi, j'y connais pas grand chose en foot, mais effectivement, ça a été,
Et du coup, quand il se passe rien, en foot, ça arrive quand même assez souvent, il faisait le fromage, donc, il disait qui préfère le gruyère suisse versus.
Non, alors ça, j'avoue, je suis passée à côté. Je suis quoi d'en passer à côté?
Mais enfin, en gros, vu que c'était suisse, tu vois, ils étaient tous pour les fromages suisses, quoi.
Ben évidemment, même si, alors là, franchement, je dois reconnaître que il y a beaucoup plus quand même de variétés de fromages en France. Là, on a basculé sur complètement autre chose. Mais j'ai pas envie de faire De Gaulle. Là. Je sais même plus. C'était comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de... Je crois que c'était 200, 300 et quelques sortes de fromages. Et en fait, non, je crois qu'on est presque, on avoisine les 500, les 450, 500. Sortes de fromages différentes en France. Et à titre personnel, en Suisse, On a du bon fromage, c'est vrai, mais on est très très loin d'avoir la variété française.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut arrêter de comparer le comté au gruyère. Déjà, il faut arrêter de croire que le gruyère est de l'emmental. Je n'en peux plus.
Oui, ça, c'est normal.
C'est insupportable. Non, le gruyère, c'est fait à Fribourg, dans la vallée de la Gruyère. Il n'a pas de trous. Alors c'est que l'emmental, eh ben, c'est fait dans une vallée, mais à côté de Berne, à Emmental, donc, qui est donc une ville, et qui a des trous. Et aucun, et je dis bien aucun, de ces deux fromages n'est français. Voilà, vous en avez, je sais pas combien, 500 et quelques. Écoutez, chacun son truc, mais arrêtez. Et puis arrêtez aussi de dire que le comté, c'est du gruyère. Non, c'est sous-côté. Voilà, le comté, c'est naze. Le gruyère, c'est meilleur. Voilà, c'est le seul truc chauvin pour lequel, j'avoue, ça me tend, ça.
Voilà. J'ai jamais mangé de comté, par contre, de gruyère.
Ah, c'est bien.
Mais parce que, voilà, moi, je suis assimilée. Là, franchement, si Zemmour était en Suisse...
Ouais. Waouh. Bon,
on va peut-être couper.
Ouais, on va peut-être enchaîner.
Non, mais bref, on peut pas enchaîner sur ça.
C'est compliqué. Non, mais il est venu, hein. Je sais pas. C'était
déjà plus que Macron, peut-être.
Il est venu il y a 2 ans et il s'est. Ah, je crois qu'il s'était fait rétamer. Il me semble que justement.
Est-ce que vous savez recevoir les cons?
Mais non, mais parce qu'en fait, non, il s'était fait rétamer parce que donc il est venu et il disait j'admire le modèle suisse parce que bon, c'est vrai que l'immigration en Suisse est une immigration choisie.
Oula.
Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile de rentrer en Suisse et c'est une immigration qui est un peu compliquée. Donc lui s'était félicité de ce modèle-là et je crois qu'il s'était fait recevoir. Il me semble que il y avait un des journalistes qui lui a dit un truc genre mais alors un peu comme ce que pouvait dire aussi Charles Nouveau dans son spectacle, il lui a laissé sous-entendre que ici il y avait un peu trop de français, quoi. Et c'était un peu l'ironie de l'interview, au final. Enfin, bon, bref. Évidemment, je partage pas ce genre d'idée-là, mais voilà.
Ouais, c'est un truc... les Français ne savent pas le racisme anti-français qu'il peut y avoir dans certains cadres et tout ça, et c'est un vrai truc, quoi. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai découvert les premiers spectacles de Charles où il disait « la France, le bled » et tout. Ça remet en contexte un peuple qui a l'impression d'avoir colonisé le monde entier, d'avoir été la meilleure puissance.
Mais qui a vraiment fait ça. Enfin, mais oui, bien sûr. C'était quand même un grand royaume, quoi.
Non, mais c'est effrayant. Donc c'est... Pour ça, il y a des trucs bizarres dans ce pays qui est le mien. Je suis mal à l'aise, mais je pense que c'est comme tous les gens qui se... T'sais... qui s'auto-flagelle, oh mon dieu, on a fait de l'esclavage et tout, enfin, ouais. Je sais pas combien d'années et tout.
Mais ce que je trouve intéressant avec les Français, pour le coup, c'est que le Français subit en réalité énormément de racisme. Non mais on peut le lire un peu comme ça, tu vois. Honnêtement, en Suisse, tu remplaces français par arabe, c'est très scandaleux, quoi.
Mais il y a le côté, on est les pires touristes, tout ça. Tu vois.
Oui, mais en fait, ce que je trouve marrant et avec ça, c'est que le français n'est pas du tout aimé. C'est une forme de racisme dans plein de pays, mais c'est le peuple qui ne le voit pas. Tu vois, c'est le peuple qui ne se rend pas compte que en Australie voler ça s'appelle le French shopping, oui. Que en Suisse ils sont considérés un peu comme les gars qui viennent pour bosser puis repartent après chez eux, machin. Enfin, c'est très particulier, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que enfin moi ça m'a toujours fait rire ce côté d'être en fait la cible de plein d'attaques, mais de pas du tout se sentir concerné et de pas du tout mal le prendre. Enfin, c'est ça qui est assez drôle, quoi.
Ben, disons que, alors je parlais de moi parce que vraiment je sais pas les autres, mais quand je vais à l'étranger, j'essaye de me faire le plus discret possible pour pas avoir cette mauvaise réputation de truc qui va se plaindre au resto ou tous ces trucs-là, pour vraiment être accepté, tu vois. Moi j'essaye d'être accepté quand je vais en Suisse, tu vois. J'essaye de dire, je connais Suzette Sandoz, tu vois. Je sais que tu as ancienne conseillère de trucs, je sais pas quoi.
Non, mais toi, tu es beaucoup plus au fait de la politique et de l'histoire suisse que moi, j'ai l'impression, hein, vraiment.
Bah, c'est juste que j'ai écouté les beaux parleurs pendant 3 ans.
Non, mais ça se voit.
En fait, j'essaye de me faire accepter de ce peuple, qui est un peu con, parce qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas chez moi. Et c'est ça le paradoxe, en fait, à chaque fois c'est on n'aime pas trop la France, mais en même temps c'est notre pays, et en vrai, si quoi, et on n'est pas chez nous ailleurs.
Ouais, Après, moi, je sais que j'ai une façon d'être très, bah pour le coup, très franco-française hein, par rapport aux Suisses. Moi, j'avoue que je parle fort, je parle français-italien, mais je parle pas d'autres langues. Je peux avoir un petit côté un peu têtu chauvin.
Ouais, parce que j'ai toujours.
J'ai des fois, ouais, j'ai des fois des trucs qui, mais qui marquent quand même une appartenance quand même un peu française, quoi.
Ouais, et moi, en fait, c'était surtout, bah, quand j'étais fan de Formule 1, en fait, j'avais vraiment un truc de, enfin, je suis encore fan, mais j'étais fan adolescente, en fait, quand j'étais ado, et même pour toutes les compétitions sportives, j'étais pas vraiment pour les Français, j'étais souvent contre, tu vois, parce que le chauvinisme des commentateurs me
hérissait
et ça me faisait supporter l'autre.
L'étranger. Bah du coup, faut que tu supportes la Suisse, parce que je trouve qu'il y a un très bon équilibre dans la façon de commenter les matchs.
Écoute, moi j'ai très peu écouté les vrais commentaires, parce que j'écoute avec Couleur 3 en fait.
Oui, ouais, 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 ouais.
Mais par contre, j'ai vu toutes les parodies de Blaise, de Charles,
ouais,
c'est
ouais,
tellement
ouais.
drôle.
C'était excellent, ils ont fait un truc super là. C'est vrai que ça m'avait fait vachement rire.
Mais du coup, toi, t'as vu beaucoup de trucs authentiques en VO, en VO suisse, en VO CH.
Bah ouais, oui, bah oui, parce que quand quand
quel est ton
Suisse,
rapport au sport
déjà. Bah moi j'ai fait beaucoup de vélos d'appartement, voilà, c'est ça mon ouais. rapport au sport. Je vois que t'en as un en plus, donc je me dis on se comprend là-dessus.
Très peu utilisé.
Non, en vrai, quand il y a l'Euro, quand il y a la Coupe du Monde, je regarde pas tous les matchs, je regarde quand la France joue, je regarde quand la Suisse joue.
C'est important.
Et c'est vrai que quand je suis en Suisse, bah du coup je vais regarder sur la RTS. Et c'est là où effectivement je trouve que les commentaires sont mais ça reste sportif, donc ça reste entraînant et tout, mais quand tu compares effectivement aux commentateurs en France, ça n'a rien à voir, quoi.
Ouais.
Même là, on est dans une forme de politesse, ouais, même dans l'entrain, on se coupe pas la parole, mais c'est un peu vraiment étonnant, quoi.
Ah, faudrait que je teste plus.
Ah ouais, vas-y,
parce que,
teste.
Bah moi je fais que foutaise, donc du coup c'est pas très représentatif, c'est des blagues sur avec Blaise, Charles, Fantin Moreno. Je dis le nom complet parce que Fantin n'étant pas humoriste, plus musicien, du coup il est moins connu et donc du coup bref, voilà. Je sais plus pourquoi on parlait de tout ça, mais
la Suisse nous fait dévier, le fromage.
Ouais.
Ça partait donc de du fromage.
Oui, le fromage, exactement.
Et finalement de mon avis sur le fromage.
Ouais. Et tu sais, moi, le fromage, j'étais un peu intoxiquée quand j'étais petite, parce que en Normandie, c'est... Enfin, il y avait la plâtrée de fromage, il y en avait 28 à table.
Incroyable,
parce
moi j'adore.
Hein. Tous les repas de famille avec tous les agriculteurs, il faut imaginer 30 agriculteurs avec des accents, mais tu peux pas imaginer les accents, il faudrait des sous-titres.
Ah ouais, ouais, mais je te crois volontiers, ah ouais, c'est sûr.
Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de bouseux dans lequel je suis, quoi. Mais c'est ma famille. Administrativement, mais c'est ma famille quand même. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à attendre que le repas s'arrête tous les dimanches, tu vois.
T'es incroyable. En vrai, moi, je pense que j'aurais adoré
avoir
cette opulence-là. Enfin, j'adore manger, quoi.
Ah,
tu me présentes une tablée de 28 fromages, mais je suis tellement contente.
Mais moi, en fait, j'en mangeais pas. J'étais anti-fromage.
Et toi, vraiment, ça te
plaisait pas ? Je m'y suis mise quand je suis arrivée ici, en Île-de-France. Petit à petit, parce que en fait, tu peux pas commencer par le camembert coulant de Yahoo.
Ah, je pense que le fromage,
avec tous les
si
vieux
tu le prends sur
bourrés,
le tard, il faut y aller, comme tu dis. Il y a forcément un guide pour les gens qui doivent commencer le fromage, comment est-ce qu'ils font, quoi.
Mais ouais, parce que eux, en fait, il y avait des gens alcooliques, et il y avait le fromage et tout, et la viande rouge.
Ouais,
toute
ouais.
une ambiance, quoi.
La campagne, quoi. Une,
ouais.
Ouais, comme tu dis, une petite ambiance.
Et le catholicisme, oh.
Ouais, beaucoup. Ça,
ouais, moi, en tout cas, moi, j'ai dû faire du catéchisme quand j'étais jeune et je fuguais dans mon jardin. Parce que je suis pas très rebelle, mais parce que je voulais pas y aller. J'ai jamais cru.
C'est déjà
pas
mal, hein. Fuguer dans son jardin,
mais
c'est déjà bien, quoi.
Mais du coup, j'y allais et tout, et c'était horrible pour moi qu'on m'impose le truc de la famille, genre, alors que moi, j'ai jamais cru. Et je trouve que c'est une trahison, tu vois, d'avoir fait la communion alors que j'y croyais pas. C'est un truc qui m'a traumatisé.
Ok, je comprends.
Ça et les téléfilms de 21h quand mes parents rentraient du travail, et donc du coup j'ai vu des meurtres, l'inspecteur Barnaby et tout, et trop jeune, et ça t'a
un peu traumatisé.
En fait, moi je peux pas regarder les choses violentes, je peux pas boire d'alcool.
D'accord.
Donc,
voilà, d'où les affaires sensibles comme je t'en parlais.
Ah non, je peux
qui
pas.
Qui retrace
ça.
Souvent
mais
des histoires un peu.
C'est Fabrice Rouelle, c'est ça son.
Ouais, c'est ça.
Je supporte pas ça. Et
la voix qu'il a.
Et
ouais.
En fait, il y a des gens, leur voix me débecte.
D'accord,
mais,
oui.
Oui, et c'est terrible parce que c'est gratos. Et à l'inverse, il y a des gars qui vont avoir un boulevard pour moi, juste parce qu'ils ont une belle voix, tu vois.
Ah, d'accord. Ouais. Alors, moi, j'ai une voix comment pour toi, alors?
Alors, déjà, t'es une nana, donc du coup, moi, j'ai moins de problèmes avec ça. C'est vraiment les hommes, où vraiment, il va y avoir un spectre entre ceux que j'adore et ceux que je déteste sur la voix. C'est terrible. Sur les nanas, ce qui va me gêner, c'est quand c'est un peu comme Caroline Vigneault ou des trucs comme ça, où c'est un peu genre maternel, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, un peu genre ah là là c'est comme ça, tu sais, un peu un moralisateur, et ça
avec un ton moralisateur, ouais. Un truc un peu, d'accord, ok.
Il y a des gens comme ça, Olivia Moore aussi un petit peu, mais surtout Noémie Delattre, tu vois.
Ah oui, d'accord. Mais sinon, je vois un peu ce style, alors ouais.
Mais après, bon, c'est des gens qui sont trop connus, donc en fait c'est pas très grave, vu que je les calcule pas.
Non, mais oui, tu as le luxe de pouvoir ne pas les calculer.
Mais c'est tellement un bonheur, tu vois, de pas s'emmerder avec des gens connus que dont tout le monde parle. Oui. Faites votre truc, ça m'intéresse pas. Et c'est plein d'autres, hein, Fabrice Eboué, fais ton truc, je m'en fous. mais il y a que moi qui peux faire ça. Et c'est aussi pour ça que tu me demandais il y a quelques jours pourquoi pas Télérama. Bah, c'est un peu aussi pour ça, quoi.
Ouais, d'accord, ok. Non, je comprends,
faire chier au spectacle de machin super connu que tout le monde connaît, qui fait tous les plateaux.
Ça
ne m'intéresse pas. Ou alors, faut vraiment qu'il y ait une appétence dingue, mais non, juger quelqu'un qui a été jugé 5000 fois, ça n'a pas d'intérêt.
Ok.
Mais d'accord. Cela dit, c'est un risque de juger des gens qui débutent.
Ah, complètement. Mais nous, on est hyper, moi, je parle pour moi, en tout cas. Tu vois, moi, quand je te disais tout à l'heure, là, moi, j'ai pas eu de grande, enfin, il n'y a pas eu énormément de personnes qui se sont intéressées forcément à moi.
Ça va venir. C'est souvent entre 3 et 5 ans après moi.
Ouais, donc, bien sûr, mais...
Prends ton agenda.
Okay. Non, mais excellent, j'ai hâte. Non, moi, j'ai eu des personnes qui... j'ai eu deux personnes dans le milieu qui se sont intéressées de près, du coup, à ce que je faisais. Dès que j'ai commencé, ça a été ça. C'est Antoinette Collin, donc... que j'avais rencontré à l'époque sur le concours de la petite PCKA, qui elle de suite, ça a été une rencontre humaine, hein, avant tout, je pense, avec Antoinette, mais aussi artistique. Elle s'est dit, ah ouais, elle, je pense que il y a un truc à faire, c'est sûr. Et puis l'avantage, c'est que du coup elle débute, donc je pense qu'il y a moyen de développer des choses. Et Elina Morph, de Jokers, qui a aussi dès le début s'est dit, ah ouais, il y a quelque chose, il y a moyen de développer quelque chose d'intéressant.
C'est pas n'importe qui, en fait, qui a...
Non, j'ai eu de la... des fois, je m'accroche à ça, je me dis, c'est deux personnes, quand même, qui sont... Je me dis, ça veut dire que... Mais après, les deux m'ont dit la même chose, c'est marrant, parce qu'elles ne se connaissent pas, les deux m'ont dit, je pense que ça prendra plus de temps pour un profil comme le tien.
Je comprends un peu.
Voilà.
Mais ils te l'ont dit quand? C'est ça qui est intéressant.
Il y a pas très très longtemps.
Ah, merde.
je dirais il y a environ un an, quoi.
C'est normal, parce que en un an t'as beaucoup progressé, quoi.
En tout cas,
Valérie Paco te calcule.
Oui, ça, merci, Valérie, on t'embrasse.
Non, mais c'est vrai.
Sinon, ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin intégrer les Bras Cassés. Ça a été quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, parce que j'aime beaucoup l'émission de base, et puis surtout il y a un côté un peu France Inter de la Suisse, même s'il faudrait pas les comparer, mais parce qu'en plus ils n'ont rien à voir, mais il y a ce côté
numéro 1
en termes d'humour, enfin
exact.
Moi, ça m'a fait très plaisir, ouais, c'était flatteur.
Ouais, on n'est pas sur Radio Fribourg, c'est hyper gratuit.
En plus, c'est gratuit de ouf, mais
j'en sais rien, j'ai jamais écouté.
Non, mais ils font des trucs très bien. moi, j'ai écouté un petit peu, voilà, mais je suis contente d'être sur Couleur 3, quoi.
Ouais, non, mais enfin, c'est un gage de qualité, et s'il y a Jérémy Crozat et Lord Betrave, j'ai commencé à plus les calculer quand ils ont rejoint les Bras Cassés. Et c'est vraiment factuel, ouais. Surtout Jérémy, où en fait j'avais un préjugé négatif parce qu'il jouait juste au théâtre Le Lieu. Donc je me suis dit, ça doit être de la merde absolue.
Alors que non
pas du tout. Et c'est ça qui est fou, je l'ai vu au 13e siècle à Lausanne, et c'était super.
Moi, Jérémy me fait énormément rire. Franchement, il me tue.
Année.
Je trouve qu'il est hyper, et alors je trouve aussi qu'il a vachement évolué dans son écriture depuis que moi je le connais. Moi, je l'ai rencontré du coup quand j'ai commencé, je dirais, vu que j'ai commencé vers le mois de mars 2020.
Oui, ben bah, lui aussi il a commencé à ce moment-là.
Je crois un peu avant. Ouais. Il me semble il a... un ou deux ans avant, je crois.
Et il non, il s'est il a voulu démissionner à ce moment-là. C'est
alors
ça.
Peut-être, ouais, parce ouais. que je crois que ça fait quand même plusieurs années qu'il est là.
Oui, en plus j'ai vu des vidéos, il y a des vidéos. De n'allez lui, pas les chercher.
Il y a longtemps. Mais alors moi ce que j'apprécie c'est que je trouve qu'en termes d'écriture il s'est vachement révélé aussi. Mm. Je trouve que les sujets ont changé, je le trouve plus authentique aussi dans, ouais. dans sa façon d'écrire. Et puis surtout, moi, il me fait mourir de rire à chaque fois que je fais. Mais écoute, mais, je, oui. Mais je Valérie. Te jure, il faut. Non, mais il me tue, il me fait rire. Oui. Il est incroyable, moi je l'adore. Et ouais. puis Lord Betrave aussi, évidemment. C'est deux styles complètement différents, mais c'est deux personnes que j'aime beaucoup.
Ils sont très copains.
Dans l'humour suisse, je vous conseille Jérémy Croza et Lord Betrave. Et puis aussi Donatien Amann, que j'aime beaucoup.
J'ai tellement hâte de la voir. Là, on enregistre le 10 février. Je vais la voir le 1er mars.
Excellent.
C'est à de la Grenette à Vevey.
Tout à fait.
J'adore parler de ça ici parce que vraiment.
Ouais, c'est génial.
Donatien Amann, c'est qui?
En plus, le théâtre de la Grenette, c'est un super théâtre.
Que je vais découvrir.
Qui est... Alors, mais il est vraiment, il est très beau et la programmation est très qualitative.
J'ai l'impression. Mais après, vraiment. C'est pas beaucoup d'humour.
Elle programme un peu de
ah
tout.
Ah si, si, c'est juste, j'y suis jamais allée, pardon.
Non, non, mais elle, je crois qu'elle elle programme un peu de tout. Mais ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment une programmatrice. Moi, je l'ai rencontrée, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Je la trouve très, très, très humaine, très, très gentille. Et elle se déplace vraiment.
Bah non, ah, ça fait plaisir, parce voilà. que c'est assez rare.
Elle se déplace. Moi, elle était venue me voir il y a deux semaines. Stéphanie Führer, quelqu'un de vraiment formidable.
Rien à voir avec Grégoire.
Je ne crois pas. Je n'ai pas posé la question, mais
parce que dans l'imaginaire collectif des Français, les Suisses sont 12. Alors que pas du tout.
Non, non, non. Mais alors millions, elle, franchement, ouais, entre ouais 8 et 9 millions. Non, mais elle, franchement, moi, j'ai adoré. Humainement parlant, on sent que c'est quelqu'un qui adore ce métier, qui a l'œil, et on voit dès le départ que c'est une grande professionnelle dans le milieu. Stéphanie Führer.
Ok, bah, du voilà. coup je découvre un nouveau nom. Et
bah ouais, ouais, non, vraiment, c'est vraiment. Je pense à interviewer, c'est une femme très intéressante.
Peut-être.
Voilà,
en fait, j'ai un poil dans la main en ce moment. Mais cela dit, je fais ça.
Là, je trouve qu'on n'est pas sur un bon poil, plutôt un bon micro, quoi. Donc, c'est bon, quoi.
Pardon, je savais pas à quel point je devais rire. Et
je moi, je la trouvais pas mal, mais après, voilà, c'est personnel. Hein.
En fait, on était tellement pas dans la blague que... Non, tout ne justifie pas, c'est pire. écoute, je pensais pas parler autant de la Suisse, mais en vrai, ça me fascine tellement.
Ah, mais je comprends, mais ça
mais me fascine. Mais à chaque fois, je culpabilise un peu envers la scène parisienne, parce qu'il y a tellement de gens. Et en fait, il faudrait aussi raconter leurs histoires. Et flemme, parce qu'ils parlent trop. Non mais oui, c'est hyper cliché en plus, c'est pas vrai. Il y a des gens tout à fait différents et tout. Et c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, en tant que Française, je m'identifie à la Suisse, mais au final, c'est parce que on n'est pas tous uniques. Enfin, on est tous uniques.
Peut-être que c'est un climat différent aussi. Moi, je sais que j'aime bien jouer en France, hein, mais je préfère jouer en Suisse.
Ouais. Mais tu joues moins, cela dit.
Alors, tu joues moins, mais je trouve que tu joues mieux. Enfin, je sais pas, c'est mon avis, c'est
moins,
mon impression.
C'est moins Uber Eats de la vanne, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est alors, un peu caricatural, mais...
Enfin, je dis ça peut-être pour rebondir sur ton ressenti à toi aussi. Je sais pas comment est-ce que toi, quand tu vas dans les comedy clubs en Suisse, comment est-ce que tu trouves la vibes?
Bah déjà, j'y vais pas beaucoup. Je vais surtout couleur 3 comedy club et je vais surtout voir des spectacles. Moi, j'ai arrêté les comedy clubs ou très peu. Parce qu'en fait, boire un verre, voir des gens 5 minutes sur les vannes que je connais, ça n'a aucun intérêt ou très peu.
D'accord.
Donc du coup, mais j'aimais beaucoup avant, mais beaucoup les plateaux indépendants.
D'accord, ok. Ouais.
En fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que j'ai pas les connexions avec les gens influents qui font la progra ou quoi. Le Paname, ça s'est pas hyper bien passé au moment où je parlais de copie comique. Mais bon, on va pas... Mais on peut comprendre que, voilà, ils avaient envie de se désolidariser de tous les gens qui pouvaient parler de l'affaire. Bon, là, on a le MeToo stand-up qui est qui crée une ambiance particulière.
Ouais, c'est,
mais on n'en parlera
c'est autre
pas.
Chose, ouais.
On n'en parlera pas parce qu'en fait, le temps que ça sorte, ça se trouve, il va y avoir des nouveaux trucs. Et puis, de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler parce que moi, je suis un média indépendant. Donc, si vous avez des informations sur le MeToo stand-up, vous ne les envoyez pas à moi parce que, en fait, je peux rien faire. Parce que je vais me faire attaquer en justice et j'ai pas le quart de prêt, j'ai rien pour me protéger. Donc, Je n'ai rien.
Non, mais c'est une affaire compliquée.
Mais je relais tout et je, par contre, je fais très attention et j'essaye au maximum de pas promouvoir des gens, mais malheureusement, on sait pas forcément. Donc, bref. Du coup, à part cette ambiance un peu concurrentielle aussi dans les loges, l'ambiance des followers et tout, enfin, il y a tout ça un peu qui est, voilà. Et le fait aussi que, ben, maintenant tout le monde fait 6 plateaux par soir, donc en fait, si tu veux voir quelqu'un, bah tu t'as intérêt à prendre les bonnes 5 minutes hein, parce qu'il s'en va après.
Ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup il y a pas ça en Suisse parce qu'il y a pas la possibilité d'avoir ça, mais moi ce que je note, et peut-être du coup que je sais pas si le public le ressent comme ça aussi, j'en sais rien, mais c'est que c'est très familial quoi. Mais c'est un peu à l'image des anecdotes qu'on racontait au début.
Bon enfant.
Il y a un côté assez bon enfant. Il y a un côté où chacun a vraiment sa place, mais aussi parce qu'on est quand même beaucoup moins nombreux.
Oui, l'union fait la force en Suisse, ça c'est vraiment le truc.
C'est vrai.
Et en Belgique aussi.
Peut-être que ça change, peut-être mais que dans 10 ans ce sera plus le cas et ce sera...
C'est le surnombre qui crée...
Et c'est normal, et c'est normal qu'à Paris on soit beaucoup plus nombreux à vouloir faire ça, et c'est normal que du coup on nous cale des vues, et c'est normal. C'est vrai que ce qui est agréable en Suisse, c'est que tout le monde te répond quand t'écris.
Ah oui, c'est le seul message de la journée.
Et puis comme c'est Suisse, c'est toujours bonjour, je vais bien
avec
et toi,
volontiers,
merci beaucoup, je me réjouis, les gens prennent le temps parce qu'ils reçoivent 2 messages par jour. Mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup aller jouer en Suisse, et du coup je sais pas s'il est... Comme je suis pas spectatrice, est-ce que le spectateur ressent cette vibe un peu cool des loges où on s'entraide beaucoup ? Ça, je sais pas, tu vois.
Ben, ça dépend du lieu, hein. Mais... Après, le spectateur en Suisse, il a payé tellement cher qu'il a intérêt à rigoler, hein.
Alors, ouais, c'est vrai. Quand tu payes 30 balles, ta place pour ton comédie club...
Après, ouais. Ils mettent les moyens. Bah, après, moi, je connais bien le chenille parce que, voilà, Christelle m'a beaucoup hébergée au début quand je venais à Lausanne. Et donc, du coup, je l'ai vu construire son projet où elle fait venir des Belges et des Français à chaque fois. Elle l'a fait pendant les temps de grève.
Elle s'est vraiment donnée à fond,
ouais,
ça, c'est
elle
sûr.
Elle continue et elle n'arrête pas. Et là, je sais qu'elle a des ambitions encore plus, quoi.
Ouais. Donc, mais ça marche, hein.
Ça marche
vachement bien aussi.
Et il y a eu un petit souci en février avec les congés de ski et tout, donc il y a une fréquentation un peu en baisse.
Je me suis mangé cette vague de ski aussi. Hein. Vendredi soir, j'ai eu 8 personnes. Ouais. Alors que normalement, c'est rare. Enfin, c'est soit c'est 30, soit c'est complet, quoi. Ouais. Donc, on s'est pris.
C'est ça la grosse différence.
On s'est mangé la neige, ouais. Ouais, ça n'a pas été facile. Mais bon.
Ouais, et puis quand tu vois tous les gens qui cartonnent, là, Alexandre Kominek, moi je le voyais jouer dans 6 personnes à la petite loge, c'était dur. Et
c'est très formateur après. Hein.
Mais
moi,
oui.
Je pense que l'avantage peut-être aussi de Paris, c'est que l'adversité est telle que si tu survis à ça,
Tu survis à tout.
Tu survis à tout. Hein.
Bah, après,
c'est sûr.
Bah, peut-être c'est pas sûr. Dans le long terme, parce que ça peut t'user aussi.
Alors ça, après, ça dépend de la psychologie. Comme on disait au début, il y a ce côté un peu mentalité de sportif de haut niveau, quoi, dans l'humour. Mais je pense que quand tu restes debout après avoir joué pendant une année devant 6 personnes, c'est que t'es là et que t'en veux, quoi.
Ouais, mais moi, je sais que toi, t'es une des personnes qui, pour moi, en veut le plus en Suisse.
Donc, ah bon d'accord. Ah oui.
Au début, je me disais même... elle a les dents qui rayent le parquet, celle-là, elle va aller loin.
Mais alors que pas du tout, c'est marrant, putain, c'est ouf.
Mais parce que t'avais de l'ambition et ça... Cette ambition est peut-être cachée chez les autres Suisses. Et
ouais,
du coup, ça se voyait tout de suite.
C'est peut-être mon côté français, plus affirmé.
Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, l'humilité arrivée, et du coup, je fais, ah, ok, intéressant.
Mais non, parce qu'en vrai, en fait, comment dire?
Bah, déjà, tu jouais à Paris et en Suisse en même temps.
Oui. Ben
ça
ouais.
Jouait pas mal, hein.
Oui, sur l'image qu'on se fait, du coup, de la personne ou déjà de l'appartenance. Mm. C'est vrai qu'en Suisse, on se dit, bah, t'es parisienne, t'es machin, je suis là, bah non, je suis suisse. Ici, on se dit, ah ouais, bah, je te fais jouer, mais il faut que tu me dises quand t'es là, non, mais moi, je vis aussi à Paris. Enfin, c'est compliqué
oui.
À ce niveau-là.
Oui.
Mais en fait, non, c'est juste que je me disais, j'ai de la chance, parce que c'est une vraie chance de pouvoir jouer dans 2 pays, tu vois. J'étais trop contente. Après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie que ça marche, mais je crois que je suis très, très, très lucide, sur où j'en suis et sur le développement qui reste à faire.
Ouais. Et ouverte à la critique.
Ah moi, bah il faut. Non mais c'est impossible de faire ça si on veut pas.
Mais c'est tellement
non,
rare,
non,
tu sais, impossible. Tu te rends pas compte. Moi je me suis pris des messages de Laura Calu, j'en ai rien à foutre, j'en parle.
Allez.
Vraiment, enfin, elle a pinaillé pour tout, elle s'est plaint, enfin, elle se plaint sans cesse que la presse vient jamais, mais en fait, si tu traites aussi mal les gens, c'est normal. Voilà.
Ouais,
donc
ouais.
Vraiment on s'est écharpé sur le contenu de ma critique, elle m'a demandé de changer des trucs et je fais tu te prends pour qui quoi.
Alors effectivement non, sachez-le, un journaliste, si c'est un bon journaliste enfin c'est son métier, donc
ouais, moi le seul truc où je change c'est quand ils veulent pas spoiler quoi. Des trucs,
oui,
mais
non
sinon...
Mais enfin il y a un droit de relecture sur des citations, des trucs que les gens ont dit, et ça c'est normal,
oui.
Mais tu peux pas modifier un article parce que ça plaît pas à quelqu'un. Si c'est ton avis, c'est ton avis, enfin je veux dire voilà, ça fait partie du métier, on n'est pas au service des gens.
Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et bah, on n'a pas beaucoup parlé de ça finalement, mais c'est pas grave parce qu'on a fait un passion Formule 1, donc j'invite les gens, s'ils veulent savoir pourquoi la Formule 1, à aller voir ça. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est la différence entre les pilotes qui savent qu'ils vont se prendre plein la... Enfin, vu qu'il y a de l'objectivité dans leur performance, on sait tout de suite avec des chronomètres s'ils sont bons ou pas. Là, on sait pas, donc du coup, la critique est beaucoup plus difficile à prendre.
Oui. Ouais, mais en même temps, je trouve que dans le stand-up...
les humoristes sont pas éduqués à la recevoir.
Ouais, mais parce que je crois qu'il y a trop d'ego. En fait, je comprends pas qu'on puisse des fois ne pas vouloir entendre. En fait, ce qu'on fait, c'est bon, alors on le fait pour soi évidemment, parce que ça nous fait plaisir de monter sur scène et d'essayer de faire rire les gens. Mais quand on réfléchit, enfin, c'est peut-être un peu, c'est pas pour être réducteur ce que je dis, mais en fait, on est aussi un produit et on se présente devant des potentiels consommateurs qui vont aimer ou pas notre humour. Donc si la plupart des gens disent bah ça j'ai pas compris, ça j'ai pas aimé, et là je pense que tu devrais t'améliorer en termes d'écriture ou de jeu, et que ce sont des retours de pro ou de public, je crois qu'il faut quand même avoir l'humilité de se remettre en question se dire que bah alors c'est qu'il y a du travail à faire quoi.
Après le truc c'est que le journalisme est devenu de la com.
Oui, c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ouais.
Et donc, du coup, ils sont plus habitués, quoi.
Moi, en tout cas, je sais que personnellement, je sais que je vais. J'ai en fait, les débuts ont été quand même pas simples. Enfin, c'est pas que ça l'est aujourd'hui, parce que je me ramasse encore des bons vides.
Non, mais t'as relevé des trucs et t'aurais pu t'effondrer avec ce que t'as pu avoir au début, ou vraiment. Les gens doutaient comme beaucoup de gens qui arrivent.
C'était terrible, mais c'était que des bides. C'était l'enfer, honnêtement. Et parce que c'était pas forcément, enfin parce qu'il y avait sans doute de l'idée, mais ça n'était qu'une idée.
T'as appris le métier à la dure, quoi.
Bah ouais. Et puis c'est vrai que moi j'ai été beaucoup et je le suis encore beaucoup aidée par Antoinette, qui me faisait des retours qui étaient aussi très sincères. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil, donc voilà, très rapidement on comprend que bah si on veut y arriver, il va falloir travailler et puis alors moi j'ai aucun problème à reconnaître qu'il y a tellement des gens qui sont drôles et bien meilleurs que moi, mais sur tellement d'aspects quoi.
Mais c'est le travail qui fait sur la durée beaucoup plus que le talent brut, donc au final
Bah ouais, alors
tout ça ça se cultive.
Oui, je pense que tout ça se cultive, mais moi j'ai aucune difficulté à dire que je fais pas clairement pas partie des plus drôles et
j'étais pas les plus nuls.
Non, bah ouais. je me suis peut-être un peu améliorée depuis, mais
non, franchement maintenant les gens ont un discours positif.
Ouais. Ouais. Allez, on a travaillé.
Bientôt très positif.
Mais non, mais on a travaillé, mais il reste, la route est tellement longue. Mais c'est pour ça que, en fait, je pense que, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut se savoir en haute estime dans ce milieu-là. On est confronté à des choses qui sont, pour l'ego, qui sont dures, quoi.
Après, je pense que c'est la vulnérabilité, la manière dont on le reçoit, ça appartient à chacun, mais c'est vrai que ils oublient que, voilà, quoi, c'est juste une critique, il faut savoir la relativiser. Mais le fait que tu fasses du journalisme peut t'aider aussi. Parce que tu sais un peu.
Moi, je me suis toujours dit, si les gens te disent que ça ils ont pas compris et ça mérite peut-être quand même de s'attarder un peu et d'essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce que tu pourrais améliorer le truc quoi. Mais après c'est personnel.
Non, mais c'est bien. Amélioration continue, c'est important. Voilà. Bah, écoute, du coup, toi, tu fais des chroniques au bras cassé. Et tu as une exceptionnelle au point virgule le mercredi 24 avril à 19h, c'est juste?
C'est exactement ça, et madame.
Oui. Et c'est formidable.
Vous avez tout retenu.
Il est bientôt l'heure de se quitter parce que tu vas bientôt partir. Mais est-ce que tu as des choses de plus à dire, promo ou autre chose?
Alors, plus promo, non. Mis à part que j'ai été ravie de pouvoir faire cet enregistrement avec toi.
Plaisir.
Et que j'encourage encore les auditrices, auditeurs, auditrices à lire ce que tu fais.
Bah, écoute,
déjà pour ta plume, parce que je le souligne encore, tu écris extrêmement bien.
Tu l'as toujours
bien.
Dit, hein. Ça pour le coup.
Ah ouais, bah, parce qu'il faut reconnaître, c'est la vérité, je veux dire. Et puis je trouve que les gens se font pas assez de compliments de manière c'est générale.
Et j'en reçois peu d'humorisme, alors qu'est-ce que j'en envoie?
c'est ça. Donc moi je crois que, en fait, je le pense, je le dis, quoi. Je trouve que c'est bien, c'est très bien même écrit. Donc je pense que vous allez apprendre plein de choses. Donc je vous conseille d'écouter à la fois les podcasts et de lire à la fois le média, le spot du rire.
J'ai cru que tu savais plus comment ça s'appelait, ça aurait été tellement drôle.
Non, ça aurait été, non, c'était le mot média que j'avais plus là, d'un coup. Le média, le spot du rire.
Et oui, je
par Juliette envie. Follin.
Ouais, il y a tout. Il y a tout. Tu fais ça beaucoup mieux que moi.
C'est un métier. Non, écoute,
oui, c'est vrai.
Non, je rigole.
C'est vrai que j'ai commencé à, je t'ai beaucoup dit c'est un métier quand t'es arrivée. Mais je crois que c'était hors enregistrement. Voilà,
ouais,
c'est la fin la plus claquée du monde.
C'est ça. Non, pas du tout.
C'était l'épisode sur les origines et d'autres trucs.
Et plein d'autres trucs. Origines, fromage et passion train, aller-retour, Suisse-France.
Ouais, c'est vrai qu'on a. J'avais noté des trucs un peu sur les trains, mais au final, il y a rien de plus à dire que le train c'est long et tout ça, quoi.
C'est vrai.
Mais c'est confort.
Mais c'est la SNCF.
Ça je pensais au train suisse.
Très long. Ah oui.
Bah écoute, merci.
Merci à
on
toi.
On va arrêter
Juliette.
Ce truc parce
on
que j'en peux plus.
Mais on adore. Merci. Allez. À toi, Juliette.